Je suis en compagnie de Camille de Toledo. Nous parlons de Les potentiels du temps, art et politique aux éditions Manuela, et puis de son dernier roman à sortir chez Gallimard, Le livre de la faim et de la soif. Bonjour Camille de Toledo. Le mot d'ordre de votre livre théorique Les potentiels du temps pourrait être la volonté de rouvrir l'avenir à des potentiels ou à des potentialités nouvelles.
Oui, surtout ce que je pourrais vous dire, c'est comment vous parliez des deux livres, et juste ça me permet de les cadrer. Je crois que les deux approches vont ensemble. Il y a toujours eu une approche poético et théorique chez moi, et puis une approche vraiment des objets littéraires, des formes littéraires. Et ça n'est pas sans lien. Je crois qu'il y a, je ne vois pas, en tout cas, c'est pour ça que j'aime bien des gens comme Édouard Glissant. C'est que je ne vois pas une œuvre littéraire qui ne s'adosse pas à une certaine vision du monde et surtout une poétique. Voilà. Donc les potentiels du temps peuvent être effectivement perçus comme une poétique, une politique qui fonde le geste ensuite la littéraire du livre de la faim et de la soif. Les potentiels du temps, d'abord, c'est un livre à trois. J'ai invité, et ça lance une série. J'ai invité Alyosha Imov et Kanto Takiros, qui sont deux théoriciens de l'art que j'admire, qui travaillent merveilleusement bien, qui articulent à la fois la théorie et la narration. Ce sont des gens qui œuvrent à cet endroit-là, des formes de narration théorique. Hein. Donc on n'est pas dans des formes, si vous voulez, idéalisées, réifiées, figées. De l'intelligence, mais au contraire, tout ça est dialectique, ils sont influencés par des gens comme Bruno Latour, justement, des formes de scénographie de savoir. Ben pourquoi? Pourquoi on fait ça? Pour faire rentrer la pensée dans la vie. Pour ne pas laisser la pensée planer au-dessus du monde, comme ça a été le cas. Si longtemps, en tout cas depuis les Grecs, ce ciel des idées. Donc il faut faire entrer la pensée dans le monde, il faut agir à cet endroit-là où la pensée est monde, où la pensée fait monde, où la pensée est matière, où la matière est pensée. Et je crois qu'ils font partie voilà, je dirais, ça n'est pas un mouvement, mais ce sont des liens entre des philosophes qui pensent à cet endroit-là. Je pense à Frédéric Aït-Touati, je pense qui a travaillé avec Bruno Latour, je pense à Emmanuel Ecoccia, qui vient d'écrire La vie des plantes, je pense à beaucoup, beaucoup de curateurs, évidemment. La pratique curatoriale liée à l'art, c'est ça, c'est une pensée sensible, une pensée matérielle. Donc, nous voilà tous les trois et à essayer de comprendre notre position dans les temps. Quelle est notre position dans les temps? Quels sont les différents régimes d'historicité entre lesquels, dans lesquels nous vivons, dans lesquels nous sommes pris. Si vous voulez, pour donner une image, le régime d'historicité, c'est un peu comme la météo. Vous voyez, c'est parfois nous oublions, enfin, nous sommes oublieux du temps qu'il fait, pris dans nos affaires, dans nos occupations. Et le régime d'historicité nous embrasse, nous sommes dedans en quelque sorte. Et mettre à distance les régimes d'historicité, arriver à les voir, arriver à les questionner, c'est sans doute déjà recomposer du temps. Voilà. Donc peut-être que c'est en tout cas une question qu'on pourrait pousser avec vous, c'est quelle est notre position dans les temps?
Cette histoire de ce concept-là. La potentialité. Vous en faites ceci. L'espace que le potentiel cherche à ouvrir est un espace non encore saturé de paroles, de critiques, d'envoûtement. C'est-à-dire que il y a comme la volonté de faire surgir une extériorité, une hétérogénéité au monde qui est le nôtre actuellement.
Oui, je pense que si on prenait un point de vue critique, même par rapport au livre, on pourrait dire, tiens, il y a non seulement du Walter Benjamin derrière ça, mais il y a surtout une attente messianique. Il y a quelque chose de l'ordre dans les potentiels du temps, d'une réouverture à l'attente, à ce qui pourrait être, à ce qui devrait être. un appel à, qui est aussi un appel à une fracture dans les temps, c'est-à-dire à nous arracher à ce présent éternel, à ce présent infini, ce qu'on pourrait appeler aussi une sorte de myopie temporelle, quoi. On est collé, ou d'hypnose, on est collé au présent, depuis quand d'ailleurs? Si on écoute François Hartog, l'historien qui fait émerger ce thème des régimes d'historicité, à la fin des années 90, enfin il y a une dizaine d'années, début des années 2000, on pourrait parler de présentisme. Voilà un isme qui nous manquait, c'est l'isme du présent, hein. C'est toute cette sorte d'écologie hypnotique où nous sommes cernés par l'actuel, ce qui a lieu, le bruit, le média, enfin nous sommes sans cesse cernés. Donc l'arrachement à cet enfermement dans le présent, c'est ce que le potentiel vise, oui. Et donc c'est pour ça que je disais, il y aurait une critique à faire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il n'y a pas là, dans les potentiels du temps, une forme d'attente messianique, quelque chose qui pourrait survenir. Et j'y répondrai en disant que non, absolument pas. C'est-à-dire que... ce que ça observe, le potentiel, ça n'est pas seulement, disons, ça passe pas seulement par une forme d'attente, mais au contraire, ça cherche à sortir en fait d'un envoûtement du présent. Ça cherche à desserrer l'étau de la contrainte du réel. Ça cherche à repuiser dans le passé ce que Paul Ricoeur appelait les futurs inachevés du passé, c'est-à-dire au fond un rapport à ce qui a eu lieu selon une ligne qui est ce qui aurait pu avoir lieu, c'est-à-dire substituer au passé actualisé, écrit, le passé, les rêves en quelque sorte des hommes d'hier, les rêves des humanités d'hier, les désirs des entités d'hier, etc. Donc, c'est une pensée de la métamorphose, très ovidienne, c'est-à-dire que, quelque sorte, portée à la transformation. C'est pour ça que le thème de la transmission, de la mission trans, dans le livre est développé. Quelle forme de transmission du passé vers l'avenir qui réouvre au-delà des contraintes, en desserrant l'étau du réel.
Alors, pour le passé, c'est parce que ce concept, cette idée de potentiel, donc, est aussi bien tournée vers le futur que vers le passé. Pour le passé, voici ce que vous dites. Nous redécouvrons le potentiel d'écriture de l'histoire, l'enjeu de ce pouvoir écrire, de cette capacité retrouvée d'écrire l'histoire.
Oui, mais ça me permet juste de, quand je posais cette question au commencement, là, quelle est notre position dans les temps ? Je crois que c'est ce que permet le livre. J'aimerais que ce soit un outil dont les gens puissent se saisir pour dire, tiens, quel est l'état de la mesure du temps ? Et alors, j'ai écrit par le passé dans Le Être et le Boulot, qui est un essai sur la tristesse européenne, où je cherchais à comprendre de quoi était tissée la fin du XXe siècle. Voilà. Et pour aller vite, on pourrait dire que la fin du XXe siècle est en tout cas tissée d'une des formes de la mélancolie, et cette mélancolie, c'est celle d'une non-capacité, d'une incapacité décrétée, je le dis bien décrétée, une incapacité à écrire l'histoire. C'est le leitmotiv conservateur de la fin du siècle, du XXe siècle, qui est la fin de l'histoire et le dernier homme. L'idée que l'histoire s'écrit sui generis, que l'on ne peut plus y mettre de la volonté, qu'il n'y a plus d'écriture. Donc c'est la fin du récit marxiste, d'une potence, d'une puissance, d'une capacité à écrire, à prendre possession du destin. Voilà. Ça, c'est une assez grande mélancolie, si on y pense. C'est qu'au fond, nous sommes livrés dans ce cas-là, si l'on s'en tient à ce décret, à écrire des histoires individuelles. Bien, c'est pour ça que triomphe, voilà, des formes parfois d'écriture mélancolique, de l'individu, de l'individu esselé, de la solitude, de la perte du sens, etc. etc. Et je crois que ça a été en grande partie inaperçu. C'est pour ça que dans le Être et le Boulot, déjà, je disais, la chute du mur de Berlin, qui est un peu le repère chronologique pour dire c'est la fin du XXe siècle ou pour dire c'est le commencement d'un autre temps. La chute du mur de Berlin a été acclamée, perçue comme un grand triomphe de la liberté, mais ce qui a été inaperçu, c'était la tristesse qui se nichait derrière cet événement, c'est-à-dire la disparition de deux ailleurs, un ailleurs de l'Est rêvé, fantasmé pour l'Ouest, et un ailleurs de l'Ouest rêvé, fantasmé, etc. pour l'Est. C'est-à-dire qu'il y avait deux ailleurs, en quelque sorte, qui étaient deux ailleurs profanes, qui étaient deux ailleurs non sacrés, deux ailleurs qui n'étaient pas par-delà la mort, qui étaient là, bien sur Terre. Et donc on pouvait passer de l'autre côté. Ce thème même du mur, et qui tombe, c'est tout d'un coup cette sorte d'horizon 1, et tout ce qui a été dit, raconté autour de la globalisation, etc. Enfin, tout ce thème, mot que je n'emploie jamais, parce que absurde, mais en tout cas cet horizon 1 provoque une forme de chagrin, de tristesse, de présence éternelle, dont des collectifs nombreux, depuis la fin des années 90, depuis le zapatisme, jusqu'à toutes les luttes, si on remonte des places, etc., les insurrections, les différentes... Un certain nombre de collectifs, humains et non humains, je pourrais dire, puisque moi, dans mes travaux fictionnels, j'y intègre également les orages, les tempêtes, les volcans, les tremblements de terre, enfin... Il y a comme ça une sorte de volonté de collectif humain et non humain à continuer à raconter des histoires, à continuer à sortir, à nous arracher à ce temps des fins.
Et pour vous arracher à ce temps des fins, vous luttez, vous butez contre ce problème du temps mondialisé, ce que vous appelez le temps mondialisé, c'est-à-dire cette homogénéisation des différentes temporalités. Cela aussi, vous devez lutter contre. Je vais vous lire un peu longuement, j'aime beaucoup ce passage et j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui se passe et quel est l'enjeu à ce moment-là. On est sur justement cette idée de mondialisation, d'homogénéisation et de comment lutter contre. Tous les acteurs de notre casting arrivent peu à peu. La jeune garde accélérationniste devrait venir bien plus tard, turbulente, pleine de panache, elle qui se propose sans sourciller de demander le futur, l'automation complète, qui pense que nous ne pouvons pas le faire sans renégocier la modernité elle-même. Tous les autres acteurs de notre casting sont là, même ceux que l'on attendait plus, ceux qui se dérobaient, ceux qui refusaient d'être historicisés, ceux qui criaient qu'ils ne pouvaient pas entrer dans les catégories de l'histoire-science, dans le temps mécanique et vide des horloges. Ceux des temps indigènes, ceux des temps travestis, des chronopolitiques queer, ceux des trous de verre de l'afrofuturisme, ils sont là où ont envoyé leur traducteur. Dans notre parlement se joue l'articulation, la négociation de ces multiples imaginaires temporels.
Alors, ça c'est un passage que vous citez, qui est écrit de la main des quatre mains de Alyosha Imov et Kantuta Kiros, donc je ne suis pas l'auteur de ce passage. Donc j'aurais vraiment là du mal à le commenter, sinon à le commenter justement comme une rencontre, comme une joie de partager ce moment. Mais je peux vous le décrire, Alyosha Imov et Kantuta Kiros travaillent précisément à cet endroit-là, et ce dont ils parlent ici, ce parlement des temps, ils l'ont réalisé en quelque sorte, j'y ai participé d'ailleurs, en tant qu'intervenant, ils l'ont réalisé à Leipzig, lors d'une exposition, dont j'étais à la fois le commissaire, enfin pas entièrement partie prenante aussi en tant qu'artiste, qui s'appelait Capitaliste Mélancolia. Mais ce parlement des temps qu'il propose en action, ça me permet de peut-être de vous dire une chose qui est très importante pour nous trois, je crois, dans ce livre. C'est cartographier les temps, c'est comprendre que oui, il y a là tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils convoquent dans ce texte, à la fin de ce texte. Les temporalités queer, les temporalités indigènes, l'afrofuturisme, les accélérationnistes. Ce sont des collectifs, là encore, qui cherche à faire exister, au fond, d'autres formes, d'autres régimes d'historicité. Alors peut-être qu'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est mais à quoi ils font face ? Parce que je ne crois pas à ce temps globalisé 1, si vous voulez. Je pense qu'il est déjà tramé d'un certain nombre de conflits qui sont des narrations dominantes, mais on pourrait se représenter les choses comme des narrations temporelles mineures, dissidentes, qui se heurtent, qui se confrontent à des régimes d'historicité beaucoup plus dominants, qui ont des moyens beaucoup plus forts. Et on pourrait, par exemple, voir très clairement dans nos temps la reconstruction d'un temps moderne, linéaire, très occidental, très viriliste. Très viriliste, j'insiste là-dessus, parce que cette reconstruction de l'homme blanc est en cours. Et elle reprend très 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 vite ses droits et ses pouvoirs et ses vieilles dominations. Et donc, les ennemis, en quelque sorte, sont très très nombreux. Donc, le livre opère, il permet ça, je crois. Il permet de mesurer, en fait, les forces en présence.
Et alors, ça nous oriente vers le futur. Et de cette pièce, le Bartleby des temps nouveaux, qui part d'une micro-fiction publiée dans Vie potentielle, c'est transformer, l'enjeu c'est de transformer le « je préférerais ne pas » la célèbre formule du Bartleby de Melville, beaucoup étudiée par Gilles Deleuze, « je préférerais ne pas » et transformer cette formule sublime en un « je pourrais ». Et par l'utilisation du verbe « pouvoir » s'offre ici comme une potentialité générale de toutes les espèces, de toutes les forces, de tous les éléments.
Oui, si vous permettez, pour ceux qui nous écoutent, moi j'aimerais juste revenir un instant sur cette cartographie des temps. Je peux je vais essayer de le résumer, mais je crois qu'il y a des temporalités apocalyptiques dans lesquelles nous sommes projetés, c'est-à-dire des avenirs, un certain nombre d'avenirs apocalyptiques qui s'imposent à nous, bien, qui s'appuient parfois sur des modèles scientifiques. Ça peut être des calculs écologiques qui nous prévoient la fin du monde, la fin des espèces, etc. etc. Donc il y a des temporalités apocalyptiques assises sur une base scientifique, plus ou moins, ça s'appelle d'ailleurs des scénarios de l'apocalypse. Il y a des temporalités apocalyptiques qui s'assoient sur des régimes fictionnels, hollywoodiens ou autres, etc., qui sont plus ou moins en lien avec les monothéismes. Je crois que dans les cultures monothéistes, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes ou juives, en quelque sorte, cette pensée de l'apocalypse est toujours là, comme un recours dramatique, on pourrait dire. Hein. Dramatiquement, ça marche, d'accord ? Une histoire a besoin de sa fin, en quelque sorte. Hein. Dans un roman, il arrive qu'on commence par la fin. Vous voyez, donc l'histoire elle-même, elle a du mal à s'émanciper de sa propre fin. Donc, dramatiquement, l'apocalypse, ça marche. Les chevaliers de l'apocalypse, tout ça, le jour d'avant, le jour d'après, c'est tendu. Vous voyez, il y a un drame. Donc, beaucoup de gens qui ont à raconter d'histoire seraient tentés, logiquement, de s'en emparer. Donc, c'est toujours d'ailleurs ce dialogue qui est fort chez moi avec la Bible. Ce que les gens oublient de dire, c'est que l'Apocalypse, c'est le moment également de la rédemption. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'il y a non seulement dans nos temps des temps apocalyptiques, des temporalités apocalyptiques, mais il y a également désormais, depuis une dizaine, quinzaine d'années, fortement des temporalités messianiques. Des temporalités messianiques. Et on en parlait à l'instant dans le court extrait que vous citiez, les accélérationnistes porte une temporalité rédemptrice, messianique. Ce qu'ils imaginent, c'est une forme de libération de l'espèce humaine et d'un certain nombre d'entités non humaines par la machine, par l'algorithme. C'est une vision assez heureuse. Ils s'en défendent, mais c'est quand même là que ça agit. C'est une vieille foi qui remonte presque au temps marxiste. Hein. C'est l'idée que les machines pourront faire tous ces sales boulots. Et donc nous libérons d'un certain nombre de viles tâches que nous n'aurons plus à faire. Donc ces temporalités messianiques, elles sont là. Je prends un autre exemple qui est très très fort, parce qu'il a un véhicule extrêmement fort. Ça n'empêche que je le conçois comme une culture indigène, mais c'est la Silicon Valley et le transhumanisme. Ce sont des temporalités qui sont dominantes et qui sont extrêmement rédemptrice. C'est l'idée de la fin de la mort, du dépassement de la mort, d'en finir avec la mort, de pouvoir donner justement la parole aux muets, l'ouïe aux sourds. Enfin, il y a quelque chose comme ça de dépasser les infirmités de l'homme, les négativités humaines, dans tous les projets transhumanistes portés par la vallée, la Silicon Valley, qui sont là et qui sont très clairement une résurgence d'une foi technologique qu'on a bien connue à la fin du 19e. Donc on voit très bien que l'axe dans lequel on a l'axe temporel où on est en quelque sorte malaxé, broyé, remué, est fait d'un côté de ces temporalités apocalyptiques et de l'autre de temporalités messianiques rédemptrices. Les potentiels, ça n'est ni l'apocalypse, ni la rédemption. C'est quelque chose qui s'ouvre à l'inaperçu, à l'improbable, à une forme d'attente qui rouvre le passé, qui rouvre le présent, qui rouvre l'avenir. Voilà, c'est ça que ça cherche à faire. Alors maintenant, vous parlez du Barthélemy. Le Barthélemy, à cet endroit-là, c'est très intéressant. Parce que finalement, on pourrait dire, la temporalité apocalyptique, elle est prise dans une histoire du négatif. Elle est prise dans une histoire de la négativité. L'histoire rédemptrice, elle est prise dans une histoire de la positivité. Il y aurait quelque chose, voilà, qui serait l'émancipation. L'émancipation, au sens marxiste, puis ensuite la désaliénation, enfin toute la façon dont ça a évolué, c'était une des formes de l'histoire positive. C'était le royaume de Dieu sur la terre, si vous voulez. C'était la rédemption qui devenait possible par l'histoire. D'accord ? Or, à titre personnel, je suis quelqu'un qui pense que nous devons nous émanciper d'une chose, c'est de l'idée de fin. De l'idée qu'il y ait à un moment donné un événement qui fasse advenir quelque chose, qui soit un état libre, etc. C'est-à-dire que je ne vois que le temps comme un conflit entre des narrations. Et notre question éthique, politique, poétique, c'est de savoir à quel endroit de ces narrations, dans quelle narration nous nous plaçons. Le Barthélemy, c'est donc Melville qui, à la fin 19e, début 20e, Moby Dick est d'ailleurs une grande fresque, presque latourienne déjà, avant le nom, sur la question du rapport à la nature, et le Barthélemy, c'est une fable de Wall Street. Le sous-titre de Barthélemy, c'est une histoire de Wall Street. Son « Je préférerais ne pas » s'adresse à un certain devenir du monde. Qu'est ce devenir, disons, de Wall Street du monde, on pourrait dire. Donc sa négativité, c'est une négativité critique et qui pose en quelque sorte un geste qu'on pourrait dire de gauche, qui est un geste de résistance, et qui dit, moi là je n'y vais pas, je ne participe pas, je me mets en opposition à ce qui devient, à ce qui veut devenir, et je m'y oppose. Ce geste de négation, qui est très fort, va occasionner un certain nombre de gloses, de commentaires au cours du XXe siècle, mais on pourrait dire que le Barthélemy est devenu la figure de la résistance, une des figures iconiques de celui qui dit non. Je pense à la première phrase de l'homme révolté de Camus, « Qu'est-ce qu'un homme révolté ? C'est un homme qui dit non. Je préférais ne pas. D'accord, le ne pas est là. La question, et c'est là où c'est intéressant de voir l'évolution de cette négativité, c'est que fait presque un siècle plus tard, plus d'un siècle plus tard, le philosophe italien Giorgio Agamben de Barthélemy, dans les gloses multiples. Il essaye de transformer la négativité de Barthélemy, c'est-à-dire cette opposition, qui à la fin du XXe siècle ne marche plus. On voit que l'opposition, en quelque sorte, échoue. Elle triomphe de façon éphémère, mais elle ne parvient pas, en quelque sorte, à relancer une flèche du temps. D'accord ? La flèche marxiste étant une flèche du temps qui a piloté le XXe siècle, pour le meilleur et pour le pire, surtout pour le pire. Mais cette flèche marxiste étant rompue, on est face à une négativité de Barthélemy qui ne fonctionne plus, qui n'opère plus. Le ne pas n'opère plus. Que fait Giorgio Agamben ? Il transforme le Barthélemy sans transformer sa phrase. parce que George Agamben n'est pas écrivain, donc réécrire Melville, il n'est pas assez fou pour le faire. Mais donc, il dit, voilà, ce ne pas de Bartleby, c'est un ne pas des possibles. C'est un ne pas qui se transforme en une positivité de possible. Le ne pas, c'est donc se tenir à cet endroit-là où tout ce que je ne refuse, tout ce que je refuse de faire ouvre à tout ce que je pourrais faire. Vous voyez le passage, tout ce que je pourrais faire, tout ce que je pourrais faire d'autre, tous les autres modes d'existence que je pourrais imaginer, toutes les autres relations au monde, humain et non humain, que je pourrais imaginer, que je pourrais vivre, que je pourrais traverser, que je pourrais élaborer. Donc, cette transformation du ne pas en une possibilité, c'est pour moi une des charnières très importantes du 20e, 21e, et d'une reconstruction, on va dire, d'une pensée, et même le terme de gauche ne convient plus aujourd'hui, je crois, mais d'un pouvoir-être qui transforme nos modes d'habitation, nos modes d'existence, d'une prédation de type Wall Street, c'est-à-dire très prédatrice. Et là, il faudrait raconter toute l'histoire du capitalisme, mais bon, très prédatrice, c'est-à-dire une prise de contrôle de cette entité humaine sur la nature, et à l'intérieur de cette entité humaine, accessoirement, une entité blanche, hétérosexuelle, masculine, etc. Donc remonter tout le fil de ça, de transformer cet état de prédation en un autre rapport au monde. Et c'est, je crois, ce qui est là, en question sur nos actions politiques, nos fictions, nos narrations. Comment est-ce que l'on transforme le Bartleby, son ne pas, en un je pourrais ?
On va aborder maintenant le côté fictionnel par le livre de la faim et de la soif et poser dans les potentiels du temps le problème des fictions closes. Je vous cite. « Les fictions sont souvent closes. Elles visent habituellement une fin, sont tendues vers une fin pour isoler la production, l'histoire, la découper. » C'est ce que vous venez aussi de dire. « Les fictions potentielles, au contraire, travaillent à des récits ouverts, inachevés, en cours, fragmentaires et déviants. Les fictions de clôture tendent à nous soumettre à un certain état du monde. » Nous pouvons donc lire, je pense, le livre de la faim et de la soif comme une fiction potentielle.
Oui, absolument. Et je pourrais là vous dire, reprendre le livre de la faim et de la soif est un roman picaresque. Au fond, il renoue avec ce genre picaresque. Et le pourquoi de cette forme, voilà comment je me le présente. Le tragique, c'est la fin du XXe siècle. Le tragique stationnaire, c'est la fin du XXe siècle. Et ce qu'observe le tragique, c'est ce qui meurt. Et ce qu'observe le picaresque, à la différence du tragique, c'est ce qui ne cesse de mourir. Donc, c'est ce qui permet de passer d'un temps fini à un temps infini. Si l'on pense au Quichotte, le Quichotte est un personnage qui, dans le roman de Cervantes, ne cesse de se faire broyer, de perdre des batailles, et il se relève toujours. Donc, dans le picaresque, il y a quelque chose qui relance les dés. C'est une sorte de soif et de faim de récit. C'est une manière de dire, au fond, non seulement l'histoire n'est pas achevée, mais elle est relancée. Et dans cette relance, nous avons collectivement, individuellement, par la fiction, par l'art, par le politique, par le poétique, une responsabilité de récit. Il va bien falloir que nous racontions en quelque sorte ce siècle, et c'est ce que fait cette cavale du livre de la faim et de la soif. C'est qu'elle cherche par un personnage qui est le livre lui-même à accueillir ce siècle, ce 21e siècle, dans toutes ses démences, ses furies, ses fragmentations, mais aussi précisément dans toutes ses chances de refaire récit.
Vous prévenez, ou plutôt le livre de la faim et de la soif nous prévient lui-même, dès les premières pages, qu'il s'agit d'une fiction labyrinthique. Je vous lis, c'est bien une fiction labyrinthique qui débute ici.
Oui, et ça c'est quelque chose qui me suit, mais là on entre vraiment dans ce qui fait forme. Au fond, écrire, pour moi, c'est toujours essayer de donner une forme à l'informe du monde, à cette informe dans Vie potentielle, qui était un roman au seuil, paru en 2010, il y avait déjà cette forme labyrinthique qui apparaissait. Elle s'affirme encore plus dans le livre de la faim et de la soif. Je pense qu'il y a, il y a des raisons à cette forme chez moi. Je pourrais les évoquer, mais comment ça s'opère, comment ça se décrit en tout cas, ce que ça donne. Le livre de la faim et de la soif, d'abord, son personnage principal est le livre lui-même. C'est un livre et il est suivi par son Sancho Panza, si vous voulez, qui est son dactylographe, celui qui a la charge de le consigner, de le taper, de l'imprimer, d'imprimer toutes ces... C'est un livre qui ne cesse d'alterner des moments d'exaltation où il pense qu'il a de nouveau un pouvoir sur le monde. On parlait tout à l'heure du pouvoir d'écrire l'histoire. Voilà ce livre-là. Et ce pouvoir écrire l'histoire du livre, et bien sûr, ça le renvoie à tous les autres livres, en quelque sorte, tous ses ancêtres. Le pouvoir écrire l'histoire du livre, ça nous ramène, en tout cas pour moi, à l'Ancien Testament. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans la Bible, dans le livre des livres? L'Ancien Testament, c'est un endroit où, en quelque sorte, les choses sont créées par le Verbe, n'est-ce pas? Au commencement était le Verbe. Le Verbe crée les choses. Le Verbe crée le monde. Donc, ce pouvoir créer, ce pouvoir dire, ce pouvoir écrire, il va suivre, comme ça, connaître un certain nombre d'avatars, le capital. Le manifeste du Parti communiste, le marxisme, c'est un grand moment du pouvoir écrire du livre. Hein, n'est-ce pas? Tout d'un coup, il y a comme ça une sorte de théorie du monde qui donne un outil incroyable pour s'emparer de l'histoire, pour dire, tiens, nous pouvons écrire le temps, ou sur le temps, à même le temps. Nous pouvons écrire à même le monde. Ça, c'est une expression que j'aime beaucoup, écrire à même le monde, ce que font les artistes. Écrire à même la matière, écrire à même les choses. Donc, mon personnage, il est à cet endroit-là. J'ai voulu me poser cette question de la psyché d'un livre au début du XXIe siècle qui alterne des moments de grande mélancolie. « Je ne peux plus rien », dit le livre. « Je ne peux plus rien. Que puis-je ? Qu'est-ce que je peux encore faire dans ce monde qui est précisément happé par l'image, par des bains immersifs de sons, par des formes de passion qui débordent entièrement les catégories du langage, par etc. Toutes ces choses qui le débordent. Que peut le livre? Et puis, dans ses accès de mélancolie, voilà, il pense qu'il ne peut rien, mais il se relève. C'est justement à cet endroit-là où il rompt, en quelque sorte, avec tout un âge littéraire pour moi qui va... de Philippe Roth, qui se perçoit toujours comme le dernier des écrivains, après lui le déluge, ou des figures qui sont pour moi des ready-made même de l'Apocalypse, que sont des gens comme Michel Houellebecq ou d'autres, c'est-à-dire des gens qui ne cessent de consigner la fin d'un certain pouvoir, savoir celui de l'homme blanc hétérosexuel, etc. Donc, en quelque sorte, le livre cherche à embrasser ce siècle comme accueil, comme joie. D'ailleurs, c'est un des mots importants du livre. Et au fil de l'histoire, comme dans Les Mille et Une Nuits, il ne cesse de raconter, de travestir. En fait. Ce qui était important pour moi, c'était travestir les mythes qui nous fondent. Les travestir. Donc travestir, notamment des histoires qui sont dans l'Ancien Testament, qui sont dans les contes, qui sont dans les grands romans sacrés. Travestir, travestir, travestir. Pour, en quelque sorte, fonder ce 21e siècle, le fonder autrement.
Oui, on reconnaît bien souvent des arrière-fonds, des histoires déjà, qui sont réinventées, réinterprétées. Ce livre qui est presque incarné comme un personnage, qui est personnifié alors, a des hésitations également. Je cite un exemple, par exemple. C'est la maladie du livre, il doit choisir. Par exemple, ici, laisser tuer Tanouk ou le violoniste de son sommeil, le réveiller. C'est la douleur du livre, les hésitations le condamnent à une lenteur qui n'a plus cours.
Là, vous, voilà typiquement comme ça, ce moment un peu nodal de... Qu'est-ce que c'est un livre ouvert à l'infini ? Je disais tout à l'heure, le romancier fait face assez couramment à ce problème de la fin de son histoire. Et comme pour moi, il y a cette sorte d'éthique de l'ouverture infinie, eh bien, comment ça se passe ? Alors, c'est si par une nuit d'hiver, un voyageur, il y a toute une histoire de ces livres infinis qui ne font que commencer. Il y a quelque chose de cet ordre dans le livre de la faim et de la soif, et l'exemple là que vous donnez, c'est un moment où, après avoir raconté l'histoire de Tanouk, il faut que vous le découvriez, mais bon, ça se passe à l'intérieur d'une toile de Chagall, et Tanouk est marié d'abord de force à un jeune homme, puis elle refuse de se marier avec lui, elle veut partir avec un petit violoniste, qui a eu, qui le jour du mariage, par désespoir de voir Tanouk être marié presque de force avec un autre, tombe d'un toit et perd. Il ne garde que l'usage de ses doigts. Il ne peut. Il y a seulement ses doigts qui continuent qui se souviennent encore des mélodies apprises. Au fond, tout le reste. Et Tanouk s'occupe de ce petit violoniste. Et le livre. Se pose la question de savoir que faire de son personnage, de cette Tanouk. Est-ce qu'il doit accepter qu'elle soit, question par tous les villageois qui la prennent pour une sorcière, qu'elle soit brûlée. Est-ce qu'il faut brûler Tanouk ? Est-ce qu'il faut la laisser vivre, etc. Donc il y a sans cesse en quelque sorte une remise en question de la fin des histoires. Ce sont des histoires qui sont des commencements d'histoires et qui se trouvent pris dans la vie du livre et emporté toujours un peu plus loin.
J'aimerais alors qu'on termine par cette phrase. Je te l'ai dit, mon ami, le monde a trop d'histoires. Désormais, il lui faut un avenir. Merci beaucoup, Camille de Toledo.
Merci.